Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de Banquet à deux. Aujourd'hui, je m'entretiens avec la députée Marwa Riski, qui est une femme brillante, drôle et extrêmement généreuse. On a discuté pendant quasiment 1 heure et j'espère qu'en écoutant, vous apprendrez à la connaître autant que j'en ai eu le privilège pendant notre conversation. Alors, sans plus tarder, Madame Marwa Riski.
Donc, je suis aujourd'hui avec Madame Marwa Riski. Elle est députée libérale dans Saint-Laurent. Elle est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et de la capitale nationale. C'est une fière Marocaine, c'est une fière habitante d'Hochelaga, mais plus important, c'est une fière joueuse de basketball.
Oui! Mais là, je
Yes!
ne suis plus dans Hochelaga. C'est terminé.
Oh non! OK. Pardon,
Ben oui, puis
pardon.
non. Parce que j'ai toujours ma maison là-bas. Puis en fait, la maison est voisine avec celle de ma mère. Donc, j'habitais évidemment chez ma mère, là, plus jeune. Puis après ça, j'ai acheté la maison à côté avec elle. Alors, on était voisines. Puis en donné, j'ai pris un peu de distance. Mais tous les samedis, je fais l'épicerie dans Hochelaga
Yes.
avec ma mère parce qu'on a toujours fait l'épicerie ensemble. Alors,
Vous retournez le plus
c'est encore.
possible dans le patelin, c'est
Oh,
ça?
oui, quand même.
Exact. Donc écoutez, je vais vous poser la question la plus difficile que je pouvais trouver. Et cette question-là, c'est avez-vous, parce que vous êtes une joueuse de basket, vous le mentionnez souvent, avez-vous déjà considéré arriver à l'Assemblée nationale en portant des Jordan?
J'ai déjà fait.
Pour vrai?
Ben
Moi,
oui. Moi, j'ai souvent des petites espadrilles blanches. Puis oui, j'ai des Jordan.
Oh!
Des beaux Jordan blancs, rouges et noirs. Sont vraiment, vraiment beaux. Et puis j'ai une paire que j'ai, pas de Jordan, mais de N1 que j'ai fait signer par Steve Nash lorsque j'ai joué avec lui.
Vous avez joué avec Steve Nash quand?
Oui, Sprite Street Jam Canada, qui était à Toronto puis à Montréal. Moi, j'ai joué ici à Montréal et c'est sûr que quand Steve Nash te fait une passe, parce que ses passes sont précises, tu peux pas manquer ton layup, tu peux pas manquer ton 3 points. Alors, moi, j'étais dans la même équipe que lui, puis c'est moi qui faisais la traduction parce que c'était un événement pour que les jeunes aiment le basket, évidemment. Puis, ils parlent pas un mot de français, donc moi, je faisais la traduction, mais moi, j'étais comme juste émerveillée par Steve Nash. Là, vous avez aucune idée, j'avais 17 ans, je venais secondaire 5, puis je rentrais au cégep.
Et donc, vous avez joué, j'imagine, assez compétitivement au basketball?
Oui,
À quel niveau
très
avez-vous
compétitif.
atteint? Puis, vous avez joué au cégep?
Oui, j'ai joué au collégial, j'ai joué avec Maisonneuve, les Vikings, mais après ça, j'ai choisi d'aller à l'Université de Sherbrooke. Non, c'est pas vrai. Ma mère a choisi que je m'en allais à l'Université de Sherbrooke faire droit MBA, parce que moi, je voulais aller jouer avec les GGs d'Ottawa, parce que mes amis partaient là-bas. Puis, un, j'avais pas les sous pour aller à l'Université d'Ottawa, c'est que j'avais pas compris à l'époque qu'Ottawa, l'université, mais que toutes mes amies de Québec s'en allaient là-bas, mais que là, c'était les frais de scolarité de l'Ontario qui s'appliquaient. Là, j'ai vu la facture, mais bon, ma mère, à cette époque-là, on n'avait pas encore les moyens pour ça. Alors, quand je me suis dit que j'allais m'inscrire en droit, j'ai regardé ça, puis il y avait le programme droit MBA. Alors, je me suis dit, bon, j'en ai parlé avec ma mère, va-t'en à Sherbrooke, va-t'en à Sherbrooke. Alors, finalement, je suis partie à Sherbrooke, puis là-bas, j'ai voulu partir une équipe, mais on m'a expliqué assez rapidement qu'ils ont mis toutes les sous pour l'équipe de football. Parce qu'en 2005, quand moi j'arrive, l'équipe de football prend forme, et à ce moment-là, c'était plein feu sur les joueurs de football, puis il n'y avait pas de sous pour nous autres au basket.
Puis vous évoluez à quelle position? À 5 pieds 9, étiez-vous point guard?
Ouais, ben,
Meneur
oui,
de
j'étais point
jeu.
guard, mais j'ai pas commencé point guard. En fait, c'est qu'au secondaire, moi, j'ai toujours joué en fait plus vieux que moi parce que j'ai ma soeur qui est 2 ans mon aînée. Alors, ma mère, elle ne pouvait pas nous gérer tous, là. Il y a ma grande soeur qui a une déficience intellectuelle, donc elle apprenait plus de temps et d'énergie consacrée par ma mère. Donc, ma mère vient de nous déposer au Saint-Étienne-des-Marteaux. Alors, moi, je devais suivre le groupe. Donc, moi, j'ai 4 ans à ce moment-là. Ma soeur a 6 ans. Alors là, c'est le mini-basket. Puis une de mes amies, Louisa Lopez, son père a retrouvé une vidéo de moi qui lance le ballon de même. C'est affreux.
À deux mains, une belle passe
À deux
textbook.
mains. Puis là, on est dans la vidéo. Le ballon tombe à côté de moi. Je regarde le ballon. En tout cas, j'ai beaucoup évolué depuis cette douce époque de ma jeunesse. Puis à ce moment-là, au secondaire, j'étais quand même grande. Moi, 12 ans, j'étais déjà 5 et 7 à 12 ans. Puis après ça, on me mettait dans le poste, mais c'était bien, mais j'avais compris rapidement que 5 pieds 9, c'est petit au basket pour les filles. Alors, dès que je suis arrivée en secondaire 3, j'avais dit à mon coach, ben moi, je vais jouer la prochaine point guard. J'aimais jouer point guard. Alors, tout l'été, j'étais allée jouer avec les gars, les rebelles de l'Uriel. Alors, j'ai joué avec eux, avec plusieurs d'entre eux, pour être point guard. Alors, après ça, je suis revenue. J'ai dit, je serai point guard et je suis devenue point guard à ce moment-là.
Donc,
Et
vous
depuis, j'ai
avez
toujours joué point
commencé,
guard.
vous avez donc commencé le dos au filet en regardant, j'imagine, Shaq, puis Tim Duncan, puis David Robinson, dos au filet, puis ensuite vous avez...
Oh.
Est-ce que c'était ces joueurs-là que vous avez regardés en grandissant, les gros big men
Non,
dans le poste?
Jordan. Moi, là, c'était
Yes!
Jordan que je regardais. Phénoménal. C'est un gars qui refuse de perdre. Même quand il est en
Catégoriquement.
train de perdre, oh, il refuse de perdre. Il y a un documentaire là, sur lui. Même
Yes.
quand il est malade, il joue. Il a le feu sacré, puis quand il monte sur le court, là, il est en mode affaire. Il est là, puis c'est business. Il veut gagner, il a le couteau dans les dents, puis c'est un des rares joueurs qui est capable de supporter son équipe. Donc, ils peuvent perdre par 20 points, là, il va les scorer, les 20 points, lui.
Oh oui.
Alors,
Il
non,
va
c'est
dire à ses
vraiment
propres
ça.
teammates, il va dire à ses propres coéquipiers, tassez-vous, this is business time, comme vous dites, là c'est à moi, là. Laissez-moi m'occuper, je vais faire la job.
Puis
Exactement.
un autre qui est comme lui, et qui est capable de jouer toutes les positions, c'est LeBron James, King James. Alors, LeBron James, moi, quand j'ai étudié à l'Université de la Floride, ben, vous comprendrez que je descendais à Miami Heat. Alors, à Miami
C'est ça, j'ai
Heat, moi,
plusieurs
j'étais
questions à
là.
vous poser là-dessus exactement, parce que quand vous étiez en Floride en 2012-2014, vos Gators étaient en...
2010
À 2014,
Moi,
vos Gators étaient
je suis
en
arrivée en
feu.
2010 là, à Gainesville. Là.
Oui, c'est ça.
Moi, j'arrive là-bas. L'année que j'arrive, juste avant, là, Tim Tebow était là, mais là, il venait de gagner encore au football. Il
Joakim
venait de
Noah,
gagner.
Corey
Les
Brewer.
Gators venaient de gagner aussi le National Title de la NCAA. Donc, à ce moment-là, moi, j'arrive dans une université,
Ils ont
tout
tout
est
gagné.
sport.
Ils ont tout gagné.
Puis. Ah oui, écoutez, c'était incroyable. Puis à la maîtrise en fiscalité, il y avait un gars à côté de moi dans l'équipe de baseball. Une gars, je dis, voyons, il y a quelque chose que l'Université de la Floride n'est pas bonne, là. Comment ça? Volleyball, le soccer féminin, les installations sportives, c'est incroyable. Et c'est
Ouais.
gratuit là, pour nous autres. Là. Donc, on peut rentrer.
Ah
Il y a
ouais.
plein, plein, plein de gyms. C'est tout sport. Puis les gens courent le matin. Moi, c'est là que j'ai commencé en fait à courir très tôt le matin parce que j'ai compris par la suite que si tu commences à courir à 9 h du matin, il
Il
est
y a
déjà
trop de
trop
monde.
tard. Le soleil, tu dégoulines ta vie. Mais quand je suis allée voir Miami Heat, à ce moment-là, mon copain, lui, de l'époque, est aussi un étudiant de l'université en génie. Et Miami Heat est en train de perdre.
C'était contre
Et là, je
Dallas?
pas. Je pense que c'était contre Dallas, puis on perdait. Puis là, le stadium commence à se vider. Puis moi, je refuse de partir. Moi, je suis une vraie fan. Même si on perd par 12 points, je connais mon basket. Je sais qu'après, il restait 2 minutes. Puis là, David dit, bah ouais, ils vont pas gagner. Là, reviens-en. Chez moi, je m'en vais pas. Tu sais, tu peux t'en aller. Alors, lui, il s'en va.
Non.
Mais dehors, il y a des écrans géants. Moi, je suis encore là, là. Il y a des écrans géants. Et là, 3 points. C'est Miller qui score. Un autre 3 points. Encore Miller. Un autre 3 points. Égalité. Là, les gens à l'extérieur veulent revenir à l'intérieur, mais tu peux pas revenir une fois que tu as quitté. Alors, ce moment-là, j'ai fait, vous autres, là, les faux fans, quand vous
Ouais.
croyez pas à votre équipe,
Mais vous méritez
les
pas de
petites leçons
rentrer.
de
Vous
la vie.
méritez pas de rentrer.
Exact.
Exactement.
Mais ça, c'était des bons moments, mais le basket, c'est ça que je trouve fantastique. C'est que tu peux perdre par 15 points, puis en 2 minutes, on est capable de faire un revirement de situation. Puis tu sais, Pat Riley, qui est le coach de Miami Heat, à ce moment-là, il y avait Eric Postra. Non, pardon, il était le
Spoelstra.
DG, puis Eric Postra, c'est le coach. Mais Pat Riley a toujours été dans les gradins, dans la foule. Donc, c'est incroyable, je trouve, la chimie qu'ils ont avec les fans. Et le coaching là-bas. Il y a aussi beaucoup de joueurs de Gators qui sont là, recrutés, évidemment, pour Miami. Alors, c'était là,
Ben, je
une
veux
très, très belle époque de ma vie.
juste peut-être pas mettre peut-être mettre un bâton dans vos roues parce que moi je suis un énorme fan des Michigan Wolverines toute ma vie, le Maize and Blues, j'adore ça. Et donc je veux juste mentionner qu'en 2012, vous avez perdu contre les Wolverines dans le Final Four. Pour l'instant, c'est ce que je retiens de notre relation, c'est que mon équipe est meilleure que la vôtre. Elle a été meilleure que la vôtre en 2012, par contre.
Écoutez, nous, on a pris une affaire à l'Université de la Floride. C'est
Oui.
important de partager les victoires parce que nous, nos murs sont pleins de banderoles de réussite.
Oh, ça fait mal parce que nous, je pense, on n'a pas gagné depuis. Oh,
Et puis,
des
moi,
lustres.
là, attends, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Imagine marcher sur le campus de Gainesville, qui est vraiment un trou perdu, là, Gainesville,
Oh, oui, je sais,
vraiment.
je connais très bien
Et là,
ça.
il y a un géant. Il y a un géant. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas Shaquille O'Neal. Ben oui, toi, c'est
Il est
Shakir, mon ami, qui est venu dire « What's up aux étudiants? » Vraiment juste ça. Puis là, un bain de foule, tout le monde capote. Quelques semaines plus tard, qui arrive sur le campus pour faire un entraînement d'été? Michael Phelps. Là, tu te dis,
oh mon
t'es
Dieu!
Au restaurant à côté de lui, tu marches sur le campus, c'est incroyable. Il y a des athlètes de la NBA, par exemple Miller. Lui, il venait s'entraîner encore l'été au campus
Mario Miller.
Pour faire pratiquer ses 3 points, courir dehors. Donc, c'est j'adore.
Écoutez, ben, regardez, je vais poser une autre question de basket parce que tout récemment, un anniversaire qui nous a, j'imagine, fait mal aux deux.
Kobe Bryant.
Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui signifiait Kobe? Parce que pour moi, c'est une journée douloureuse. Ça l'a été, puis ça va l'être pour le reste de ma vie, la journée où il est décédé. Qu'est-ce que cet homme-là signifiait pour vous?
Ah, avec Kobe... Oh. Et en plus, il a eu une carrière incroyable. Mm-hmm. Et il donnait énormément à ses fans. Je trouve que c'est lui incarnant encore le gars qui reste dans sa franchise et qui part pas et joue n'importe où, n'importe comment, au plus fort de la poche. Mais c'est sûr qu'il y avait une grosse rémunération, on s'entend. Mais il était fier de porter les couleurs des Lakers. Il redonnait énormément. Puis, tu sais, le décès avec sa fille, ouch, c'est comme tu fais non, là, tellement jeune, plus la fille qui elle-même joue au basket. Oh, non, ça a été douloureux. Puis, et lui, il regardait Michael Jordan, c'était une inspiration, mais Kobe inspirait déjà un paquet de jeunes. Puis, c'était une époque là, quand même qui avait du grand talent. Là. On n'en parle pas beaucoup de lui aujourd'hui, mais Iverson, il donnait pas sa place sur le court. C'était
non,
des beaux duels. Là.
Exact.
Oh, ouais. C'était douloureux.
Je vais vous faire un des plus gros compliments que je peux vous faire, c'est que je fais un parallèle entre vous et Kobe Bryant. Parce que vous avez souvent dit que lorsque vous avez un objectif ou lorsque vous voulez aider quelqu'un qui vous tient à cœur, vous allez y mettre tout votre temps, toute votre énergie, tout votre tout, et souvent même au détriment d'autres choses dans votre vie. Puis ça, c'est ce que Kobe a appelé son Mamba mentality. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été inculqué en jouant au basket, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes né? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en étudiant Kobe, ou cette Mamba mentality-là qui peut être un détriment à la personne qui l'applique? Où êtes-vous allé chercher ça?
Probablement ma mère. Ma mère avait vraiment rien. Il y a des gens que... Il y en a qui sont moins nantis, mm-hmm. mais ma mère avait non seulement pas d'argent, mais pas plus d'éducation non plus, donc elle n'avait même pas le coffre à outils. Mais elle est arrivée au Québec dans l'objectif de faire des sous pour l'envoyer au Maroc pour soigner ma grand-mère, donc sa mère, qui est non-voyante. Elle voulait l'amener ici pour rencontrer des spécialistes. À l'époque, ma mère croyait naïvement qu'au Québec, on pouvait même redonner la vue à quelqu'un qui l'avait perdue. Donc, ça lui a pris 5 ans d'économiser chaque sou qu'elle avait pour amener ma grand-mère ici. J'avais, moi, à ce moment-là, 5 ans, en temps 90. Puis je me rappelle, ma mère, j'allais avec elle dans les rendez-vous. Ma mère ne maîtrise pas, à ce moment-là, le français parfaitement. Il y a son amie Marie-Thérèse qui l'accompagne. Puis à chaque fois, chaque rendez-vous, le médecin dit « Non, madame, on ne peut rien faire. » Ma mère, après ça, se met à pleurer comme une madeleine. Mais ma mère, c'était... Même si elle n'avait pas les outils, elle avait compris une affaire, c'est que nous, on pouvait aller plus loin. Et... Elle a tout fait pour nous. Là. Puis, tu sais, je sais, il y a des gens qui auraient peut-être honte de dire, mais moi, j'ai pas honte du tout de ma mère qui est allée à l'école tout en faisant des ménages pour être capable de nous payer nos études. Quand moi, genre, j'ai dit que je m'en vais étudier à Sherbrooke, c'est loin, là, j'ai un appartement aussi à payer, là, tout ça. Là, donc, elle, là, chaque sou, c'était pour notre éducation. Chaque dollar, c'était éducation, éducation. Au primaire, même si on n'avait pas beaucoup d'argent, quand la bibliothèque roulante là, passe, là, puis qu'on peut acheter des livres, elle nous achetait des livres. Même si elle n'était pas capable de nous lire le livre. C'est assez incroyable. Alors, c'était... puis, même si elle n'avait pas beaucoup d'argent, quand elle achetait un ton de sucre ou le café, elle tombe sa voisine qui en avait moins qu'elle, nous, on était 4 enfants, elle tombe la voisine, son amie, elle a 5 enfants, ma mère coupait pour de vrai le carré, ben, le sucre, elle lui en donnait, le café, elle faisait la même chose, le sac de farine, l'huile, c'est pas des farces, elle faisait son pain à la maison, elle faisait des beignets, puis elle donnait des beignets à tous les enfants, toutes mes amies au fond de la ruelle, là. Alors, c'est incroyable, c'est... Puis ma mère m'a dit quelque chose quand j'étais petite, elle me dit, c'est plate ce que je vais dire, là. Elle me disait, On dirait que quand tu as moins, tu donnes plus.
C'est absolument vrai.
C'est
Ma
fou.
mère est salvadorienne. Elle est née au Salvador, elle est née à Usulután, la capitale. Et à chaque fois que je retournais au Salvador visiter ma famille, c'est exactement ça dont je me rendais compte. C'est que ces gens-là qui ont vraiment pas grand-chose, c'est également des gens extrêmement généreux. C'est des gens que ils ont peut-être une tasse de riz à manger, mais si t'as faim, ils vont t'inviter chez eux, ils vont te faire la tasse de riz, puis ils vont te donner un café, puis ils vont te mettre ça avec une poupoussasse. Puis c'est pas que c'est surprenant, mais non, c'est ça, c'est surprenant parce qu'on s'attendrait justement pas à ça, comme vous dites.
Puis moi, ça vient me chercher parce que je trouve ça tellement beau. C'est simple, mais tellement authentique.
Oui.
Et j'ai l'impression qu'on est en déficit de plus en plus de ça dans notre
Absolument.
société.
Absolument. Puis écoutez, vous avez mentionné la nourriture que votre mère faisait. Je vais vous poser autre question quand même très importante qu'il fallait absolument que je vous pose. C'est quoi la magie qui est à l'œuvre dans la tagine? Parce que j'ai l'impression que peu importe ce qu'on met dedans, ça va goûter mieux que si on met pas ça dans une tagine. Tout ce qui sort d'une tagine, c'est délectable, c'est délicieux, puis c'est meilleur que si on faisait juste ça dans un four normal.
C'est bizarre parce que ma mère n'utilise pas la tagine. Elle utilise le gros bain-marie,
OK.
puis elle fait d'abord saisir son agneau. En fait, c'est vraiment, elle fait saisir d'abord son agneau. Après ça, elle met dans la grosse, grosse, grosse marmite qui a l'air de rien, là. Puis son couscous, elle met en haut dans le bain-marie et les vapeurs, en fait, de toute de sa sauce, des navets, des carottes qui est en dessous, et avec évidemment l'agneau qui cuit. Va cuire le couscous
C'est
tranquillement,
brillant.
tranquillement,
C'est
et il
brillant.
va goûter, il va avoir les saveurs qui sont mises dans la marmite en dessous. Alors, je pense que c'est ça le truc. Là, je pense que ma mère m'en veut peut-être d'avoir donné son truc.
Le secret qu'il fallait pas donner, ah oh non. Je le mentionnerai à personne, je vais pas. Je vais cut it. I'm gonna cut it.
Mais
Je
c'est
vais
correct.
l'enlever.
Il y a toujours la vraie réponse, c'est que quand c'est fait avec amour, tout le monde aime ça.
Ah, ok, d'accord. C'est la réponse générique que tous les chefs donnent, n'est-ce pas? Et que ma mère m'a dit souvent, souvent, souvent. Autre petite question de basket, mais qui peut-être a un petit peu rapport avec l'éducation aussi. Kobe Bryant, c'est un homme qui a gagné 5 championnats, des médailles d'or. C'est un homme extrêmement, extrêmement successful dans ce qu'il faisait. Mais la chose la plus importante pour lui, après sa carrière, c'était de faire grandir le basketball féminin. Il voulait absolument que ses filles, que toutes les filles partout aux États-Unis, au Canada et dans le monde, puissent un jour dire, écoute, je vais jouer au basket, je vais jouer à un sport et j'ai la capacité, j'ai le pouvoir d'avoir une carrière comme Kobe ou LeBron. Parlez-moi pour vous de l'importance justement pour comme Kobe de faire grandir le sport féminin, de montrer à ces petites filles qu'elles sont importantes et qu'elles ont autant de pouvoir que ces athlètes-là.
Elles ont autant de pouvoir,
Absolument.
mais elles n'ont pas autant de temps d'antenne
Exact.
qu'eux. C'est la vérité. C'est que si on veut que le sport féminin, là, tout sport confondu, soit important, c'est le temps d'antenne à la télévision. Si on regarde le tennis, les femmes génèrent énormément de codes d'écoute. Et elles sont pas mises le dimanche à 10 h le matin. Il y a les bonnes heures d'écoute, puis c'est ça qui génère des profits, des commandites, les placements publicitaires. Les femmes jouent sur le court principal autant qu'un gars. Puis elles ont les mêmes bourses. Alors, ils perdent pas d'argent en mettant les femmes de l'avant. Ils en font de l'argent. Les commanditaires aussi sont contents, là, des femmes. Alors, pour le basket, oui.
J'ai l'impression que pour le tennis, l'affaire, c'est que ça a été. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la sauveur. Il y a eu Serena, les Williams Sisters, qui n'ont pas nécessairement remis le sport sur la map, mais qui l'ont fait grandir énormément et qui ont attiré les yeux des Américains. Est-ce que au basket ou dans d'autres sports, je pense pas qu'il y ait encore ce type de figure sauveuse-là qui pourrait attirer autant d'yeux que
Ben,
les sœurs
il y a eu
Williams?
Martina Hingis là, aussi avant là, au
Oui,
tennis. Il y a eu
oui.
plusieurs joueuses. Au basket, c'est vrai, là, on est dans c'est cher, là, les franchises, là. Alors, les franchises masculines coûtent plus cher à acheter. On veut du rendement quand on est propriétaire pour investir des
Ouais.
milliards là-dedans. Il va falloir que les propriétaires, de leur côté, mettent des sous. On ne peut pas laisser ça seulement sur le dos des joueurs. Kobe, c'est sûr qu'il avait une grosse fortune, mais le propriétaire de sa franchise, lui, en a pas mal plus, c'est un
Dr. Boss, oui,
milliardaire.
la famille Boss,
Mais
exactement.
Et il va falloir aussi que les autres joueurs là, embarquent là-dedans. Et une des façons d'embarquer, moi, ce que j'aime, moi, j'ai joué aussi masculin. Ça m'a coûté mon plancher orbital droit, là, mais c'est pas grave.
Pardon?
On a réparé, grosse opération. Ouais, parce que moi, je jouais aussi masculin.
Un coup dans la face?
Rebound, non, dans un rebound, le gars de 6 pieds 6, quand il redescend son coude matin ici, là, je perds mon verre de contact, je capote, mais je vais mettre quand même sa ligne de 3 points pour lancer mon 3 points, puis il rentre, puis après ça, je fais un temps mort, je vais aller chercher un autre verre de contact. Yes. Ça, c'est un vendredi soir. J'arrive le lundi à l'école, au cégep de Maisonneuve, fais mon examen, j'éternue, je me mouche, puis mon visage explose littéralement d'ici à là. Pardon? Là, c'était infiltré, puis je ne savais pas, mais au fond, j'avais une grosse commotion, puis mon plancher orbital avait pété. Mais j'ai pas eu... Moi, je peux aller me... vendredi, après le match, chez le médecin ou à l'urgence, parce que j'avais pas de bleu, j'avais rien.
Ouais.
Rien, pantoute, j'étais juste étourdie, puis j'ai dormi samedi toute la journée. Dimanche, j'ai dormi toute la journée. Puis là, je suis arrivée un petit peu, alors, j'ai à l'école, j'ai un examen. Puis là, quand je me mouche, je sens du popcorn dans mon visage. Je me lève, je vais voir le prof qui tombe par la renverse. Heureusement, il y avait d'autres filles dans l'équipe qui étaient avec moi. On va le mettre dans l'hôpital de Maisonneuve. Heureusement, on me rentre une caméra dans le nez. Puis là, finalement, elle dit, t'as plus plancher du temps, on va t'opérer. Puis là, je dis, non, 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 m'opérez pas. Je vais avoir des cicatrices dans le visage. La fille n'est pas folle à temps plein. Et que finalement, ça fait plusieurs années avant qu'on trouve la bonne personne qui était capable de m'opérer sans faire de cicatrices apparentes. Puis finalement, on m'a opéré par l'intérieur. Patrick Boulos de Sherbrooke.
Mon Dieu!
Un autre prof de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi ophtalmologiste. Donc, j'ai fait opérer à Sherbrooke. Ça s'est super bien passé. Mais pourquoi que je dis ça? C'est que faire des compétitions gars-filles, d'avoir des équipes mixtées pour au moins montrer là, qu'on est capable de suivre le rythme, on est capable de courir, de faire des sprints, c'est sûr qu'on n'est pas tous capables de dunker. Moi, j'étais juste capable de toucher au filet. Hein. C'était assez. Puis je me suis pratiqué un million de fois pour essayer de toucher le rythme. Ça n'a pas marché. Alors, au moins de faire des compétitions mixtes pour montrer le niveau que les femmes sont capables d'atteindre au basket. Les gens vont faire « Ah, oh, les femmes sont capables de jouer avec des gars. Ben oui, vous autres, on est capables. Puis on est très bonnes dans le 3 points aussi. Encore meilleures que les gars, je pense. »
Oui, vous êtes excellentes. Sue Bird puis Ella Deldon, qui sont absolument incroyables, qui peut-être pas suivre le rythme de Steph Curry du 3 points, mais qui vont la coter. Elles sont excellentes. J'ai regardé les playoffs de la WNBA l'année passée, puis j'ai été très, très, très diverti par le niveau de jeu. C'est très élevé, puis c'est extrêmement, extrêmement divertissant. Autre petite question sur le basket. Historiquement, les joueurs de basket, ce sont les athlètes qui se sont le plus démarqués par ce qu'on appelle, entre guillemets, et en bon français, le trash talk. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça.
Sur le court, oui.
Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça, mais vous avez vous-même pas peur des mots puis vous ne les mâchez pas à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu de votre temps sur le court ou c'est juste, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu de votre mère ou c'est du basket?
Non, ça c'est le basket.
Yes,
ça,
c'est clair, yes. C'est
le basket. Moi, en plus, j'ai fait street basketball, qui est un tournoi au Parc Saint-Laurent à Montréal-Nord. Mm-hmm. Chaque été, on arrivait là, puis nous autres, on allait pour gagner, là, pour question qu'on perd.
Mais non.
Puis on jouait là-bas, c'était c'est fou, incroyable. Là, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Anecdote. L'autre jour, j'étais allée chercher des livres. J'ai acheté des livres pour donner à Noël en cadeau de Léa Strelitzky, La vie n'est pas une course. Mm-hmm. Puis moi, j'avais rencontré sa sœur sur le plateau Tout le monde en parle, Alex Strelitzky, qui est la grande pianiste qu'on connaît. Et après quelques jours, Léa m'écrit, elle dit... sur le coup même, elle me dit « Marois, je pense que tu as joué au basket contre ma sœur. » C'était à Marguerite de la Jemeraie. Puis elle allait à Marie, je pense que c'était Marie-Clara, je ne suis pas certaine.
Sur le boulevard, oui, Marie-Clara.
Privée. Puis nous, Marguerite de la Jemeraie, on était une école de filles. Puis nous, on n'aimait pas les écoles privées. les petites filles d'Hochelagaise, on n'aime pas trop les gens les Outremont, Outremont, Westmount. Là, nous autres, on n'aimait pas trop ça. Là, elle me dit, tu te rappelles-tu de la bataille dans le vestiaire après? Puis je fais, c'est vrai que on les avait vraiment, mais vraiment... donner une cale.
Malmenée.
Après ça, la chicane a poigné en patient.
Oh mon Dieu. Donc, donc j'en déduis que ça vous est venu de là. Mon Dieu.
Fort probablement. Puis... On avait beaucoup d'attitude au basket. Puis, plus tard, quand on a tout fini de jouer vers 25 ans, là, que c'était terminé, que mes amis étaient revenus des États-Unis, c'est que l'université s'est terminée, il y a une ligue qu'on joue dans la petite Bourgogne. Mm-hmm. Au centre récréatif, c'est la Ligue de Dexter. Alors, on s'est mis à jouer. Ça nous a pris 3 ans littéralement 3 ans pour apprendre à jouer ensemble. Parce qu'on jouait d'abord l'une contre l'autre, puis là, on était toutes revenues, on a 25 ans, puis on a joué compétitif. Puis on a dit, Marie-Ève a dit, « Les filles, il n'y a pas de trophée à fin! On peut-tu se calmer le pompon? »
Non, c'est pas une switch qui peut se mettre on and off, cette compétitivité-là, exact.
Ça nous a pris 3 ans de comprendre qu'il n'y avait pas de médaille, pas de trophée, pas de classement. Il n'y aura pas le « Ah, combien t'as scoré? » Non, on s'en fout, là. Faut que tu t'amuses. Puis maintenant, on est capable de jouer, on s'amuse, puis on est vraiment meilleurs.
Qu'est-ce qui était plus important pour vous, sur le stat sheet? Étiez-vous une compteuse? Faisiez-vous des pas? Qu'est-ce qui était plus important, les assists, les rebonds ou les points pour vous?
Moi, je faisais tout, là. Donc,
des triple-double!
Non, pour de vrai. Moi, j'ai énormément de steals.
Gary Payton, pourquoi, comme Gary
là,
Payton.
Mais j'anticipe énormément la passe. Et les gens, les point guard, moi, je remarque le dribble de chaque joueur. Mm-hmm. J'étudie leur dribble, puis je sais quand ils vont déposer le ballon. Puis à ce moment-là, moi, je suis déjà partie avec ta balle. C'est incroyable. Puis quand je joue avec les gars, tout le temps dans la même tactique, je sais exactement quand ils vont essayer de faire la passe entre les jambes. Là. Non. Moi, à ce moment-là, boum, je suis partie avec ton ballon. Là, c'est fini. Alors, les steals, j'adore ça. Puis je trouve que quand tu fais un steal, ton vis-à-vis, ton point guard, là, qui est en face de toi, là, mentalement, il est ébranlé. Sa game vient de changer. Quand ça fait 2-3 fois que tu as perdu le ballon, ton coach t'assoit. Alors là, tu es obligé de mettre le point guard numéro 2 qui n'est pas habitué de jouer. Et que là, nous autres, oublie ça. La game est terminée. Donc, c'est beaucoup les steals. Les shots, j'en fais beaucoup. Après mon accident, mentalement, là, moi, je n'étais plus capable de vraiment driver dans la bouteille. Là, j'ai eu peur de me refaire briser encore l'œil. Puis je me suis dit, tu sais quoi, là, moi, aller mollo dans la bouteille. Je ne sais plus comme avant, l'insouciante dans la bouteille qui rentrait, tac, 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 pouf.
Mais c'est ça, c'est à la Derrick Rose. C'est à la Derrick Rose qui avait un recklessness, qui sacrifiait son corps 2 mètres au-dessus du sol. Puis après ces 2 ACL, après ces fractures, c'est exactement comme vous dites. Il n'y a pas la même insouciance, il n'y a pas la. Le risque est plus présent dans sa tête. Puis j'imagine que c'est ça qui vous est arrivé. Puis qu'est-ce qui se passe avec votre heat cette année?
Notre quoi?
Votre heat. Vous m'avez mentionné le
Miami
Heat. Qu'est-ce qui
moi,
se passe?
Que le LeBron James est parti, là, ça a été un peu plus difficile. Là, donc,
vous avez fait la
LeBron
finale
James
l'année passée. Vous avez fait la finale l'année passée. Ça a dû être un 2 semaines extrêmement gratifiant pour vous.
Oui, mais maintenant, tu vois que je suis loin de Miami. J'ai plus comme ce même sentiment de loyauté. Je suis une fan finie de LeBron James. C'est que où LeBron va, je suis.
Oh.
Désolé.
Moi, j'ai grandi en écoutant Kobe. Pour moi, le meilleur joueur au monde, c'était Kobe. Alors, dans les années 2008-2009, quand les gens disaient de façon précoce que le meilleur joueur au monde, c'était LeBron, moi, ça me fâchait. C'est pour ça que j'ai développé cette aversion puis cette haine envers LeBron.
Je sais, mais je pense qu'il y en a plein qui sont comme toi. Mais LeBron James, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est un des rares joueurs qui fait son warm-up avant le match, avant même d'arriver dans le stade. Il partait chez lui à vélo. Dans le trafic, puis montait pour faire tout son warm-up. Donc, c'était fait. Tout son match, là, il l'avait visualisé avant de rentrer dans le stade. C'est un des rares joueurs qui peut jouer les 5 positions au basket. Point guard, forward, power forward. Il peut toutes les jouer sans aucun problème. Il avait accepté d'avoir un moins gros salaire avec Miami Heat pour être capable de chercher Chris Bosh à ce moment-là et évidemment garder Dwayne Wade, qui est excellent, Dwayne Wade. Mais LeBron James et Dwayne Wade jouaient là, de façon fluide ensemble, vraiment fluide.
Leur premier match dans l'uniforme du Heat, c'est cette photo iconique, vous vous en souvenez? Exact,
oui,
Dwayne Wade qui lance par l'arrière, exact. Étiez-vous à Miami à ce moment-là?
Oui, à ce moment-là. Oh. Non, est-ce que j'y étais en 2006? Je pense que oui, mais je ne suis pas certaine. Je pense que oui. Oui, en fait, j'y étais, oui, c'est vrai.
Mais c'est ça, j'imagine, en Floride, dans ces années-là, l'énergie devait être différente.
Voilà.
C'est,
oui,
cette habileté.
On savait qu'on avait quelque chose. Quand après ça, ils ont perdu en finale, on savait qu'année suivante, ils allaient gagner. C'était clair, 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 parce que la douleur de la défaite était immense. Et puis, je me rappelle du sourire de Tim Duncan, moi, ça m'est comme, parce qu'il était un excellent joueur. Mais après ça, LeBron James, c'est qu'une fois il a gagné avec Miami Heat, il est retourné dans son patelin, Cleveland.
Oui.
Pour faire quoi? Pour gagner. Oui. Alors, il a gagné. Après ça, il s'en va où? Lakers, il a encore gagné. Alors, LeBron James, peu importe l'équipe, il gagne.
Oui, mais il n'a jamais gagné sans 2 gros All-Stars. Écoutez, je ne veux pas jouer l'avocat.
Attends, alors, Kobe, avait aussi du monde autour de lui,
Kobe
là.
avait Shaq, les trois premiers, un All-Star. Et les deux derniers championnats, il y avait Pau Gasol, qui n'était pas du calibre de Chris Bosh et de Dwayne Wade, puis c'était un All-Star. LeBron a toujours joué avec deux, il a toujours gagné avec deux.
Paul Gasol mesure combien déjà?
Sept.
Et voilà. Tu sais, les rebounds, là, c'est déterminant dans
Chris
un
Bosh fait
match.
6-11.
Ouais, mais ben attends, Chris Bosh, un, là, c'était pas le plus large, là. Alors que la famille Gasol, les deux frères sont quand même assez larges. Alors, les épaules sont présentes. Chris Bosh est un. Il est un petit. C'est un grand petit dans le sens qu'il est mince. C'est très, très mince. Il gagnerait à mettre un peu de
De
muscle
masse,
autour
oui.
de. Davantage de poids musculaire. Il gagnerait à faire ça. Plus, c'est. Chris Bosh, pour l'avoir déjà vu, quand tu le vois, il a l'air tellement fin. Il est intimidé de zéro. Il a une face super
Oui.
gentille. Parce que, tu sais, Gasol, ils sont là, puis
Ah, c'est all
jouent.
business,
Ils ont de
exactement.
l'attitude, là.
Une fois revenu au Canada après vos études, vous avez fait votre doctorat en
En
tax law?
fiscalité.
Pardon?
J'ai un doctorat en fiscalité aussi en
C'est ça,
Floride.
un tax law, right?
Oui.
Exact. Une fois revenu après votre doctorat, vous êtes-vous attaché un petit peu plus aux Raptors? Ou vous avez gardé un petit
Non.
peu? Pas du tout? Dites-le pas, faut pas dire aux gens ça parce que vous dites
Ah
à
non,
eux.
je sais, puis je m'en excuse. Quand j'étais plus jeune, je suivais Vince Carter, mais j'étais pas une fan finie de Vince Carter. Je le trouvais très, très, très bon, mais j'étais pas une fan. Puis peut-être que une des raisons que je suis pas une grande fan de Toronto, c'est que moi, je lis la rivalité Montréal-Toronto à cause du hockey. Donc
Okay.
peut-être que ça, j'ai une, disons, c'est peut-être probablement ça maintenant que j'y pense. Mais j'adore leurs joueurs, là. Ils ont Boucher, je trouve que c'est. J'ai beaucoup apprécié qu'il est revenu à Montréal, qu'il est allé voir les jeunes, qu'il a encouragé les
Oui.
jeunes à poursuivre leurs études puis leurs rêves. Alors, Chris Boucher, moi, c'est un gros coup de cœur.
L'affaire avec les Raptors,
Vraiment.
je pense que la raison pour laquelle les Raptors sont. La raison pour laquelle les gens aiment autant les Raptors, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs qui n'ont pas été repêchés. Ils ont beaucoup de choix de deuxième ronde, qui ont émergé. Chris Boucher n'a jamais été repêché. Fred Van Vliet a joué 4 ans à Wichita State et n'a jamais été repêché. Alors le fait que ces joueurs-là, qui n'ont pas eu autant d'opportunités que les choix de première ronde, le fait que ces joueurs-là performent et sont une partie intégrale de cette équipe-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'associer à à cette construction d'équipe-là.
Oui, mais moi, tu sais, durant l'été, quand il y a eu la reprise de la NBA,
Dans le bubble, ouais, à Rondo.
je me rappelle c'est quoi le match, puis j'ai fait bad coaching. Bad coaching. Quand ça fait six possessions là, que tes joueurs sont pas capables de scorer, puis que l'autre équipe score, appelle un temps mort.
Ouais.
Fais-le. Puis.
Ben,
Mon Dieu, là, son nom m'échappe. Il y en a un, je dis, mais mets ce jeune joueur sur le court. Il est tout jeune,
Terrence
c'est
Ross?
ça. Pardon?
Terrence Ross? Ah
Non,
non,
un
Terrence
autre.
Davis.
Oui.
Oui, le recrue qui était
Mets-le.
recrue. Ouais.
Il veut jouer, puis quand il joue, oui, il va faire des erreurs. Oui, il va prendre une faute. C'est pas grave qu'il prenne une faute, dans la mesure que, un, il est capable de faire des steals, il va pour le rebond, il est dans la face du joueur, il s'assure de jouer dans la tête, parce que quand t'as un joueur qui est constamment en train de jouer defense contre toi, là, c'est sûr que ça t'atteint. Tu paniques, tu vas faire une mauvaise passe, il crée quelque chose. Moi, je trouvais que le coach, je le trouvais passif par moment,
Nick
qu'il mettait
Nurse.
beaucoup, beaucoup sur le talent de ses joueurs. Mais tout bon talent de joueur, si tu n'appelles pas le temps mort au bon moment, puis que là, écoute, tu perds par 8, finalement, après ça, tu perds par 22, puis tu t'en vas dans les vestiaires. L'atmosphère va être négative dans le vestiaire. Alors, appelle ton temps mort rapidement, calme le jeu, dis, écoutez, les gars, on a perdu le ballon 3 fois, ça suffit. Toi, t'embarques, toi, tu prends une pause, prends ton Gatorade, puis on repart.
Ce qui est.
Mais je
Ouais.
fais ça très simpliste, là, mais.
Ben, c'est aussi simple
C'est
que
qu'on
ça.
dirait qu'il n'a pas été capable de casser le rythme de l'adversaire. Il faut savoir casser le rythme de l'autre équipe. À un moment donné, j'ai un coach là, qui nous a juste sacré là, il est parti. On jouait vraiment mal. On est
OK.
arrivé, puis il y a une
OK.
chinoise, une fille d'origine chinoise, elle fait 6 pieds 8. 6 pieds 8. Nous, on est arrivé, on dit tabarouette. Puis l'autre joueur, 6 pieds 4. Alors que nous, la plus grande chez nous, Véro, fait 6 pieds 1. Donc, il y a quand même un écart considérable.
Oui,
6
quand
pieds
même.
7 ou 6 pieds 8, là, c'est grand pour une fille. Là, nous, on arrive, écoute, on perdait par, on a, à la mi-temps, on perdait par 40 points. Le, notre coach a dit, honnêtement, là, vous n'êtes pas venus pour jouer, les filles. Je vous connais, puis aujourd'hui, ça ne vous tente pas de jouer. Vous les regardez faire leurs affaires. Donc, moi, je suis tannée. Il est parti. Il s'appelle Magic, là. Nous, dans le au basket, on l'appelle, il s'appelle Magic, mais son prénom, c'est Jonathan. Donc, Jonathan s'en va. Nous, on est là, on n'a plus de coach, on s'en regarde. Et crois-le pas, on a gagné par 20 points. Parce qu'on connaît nos temps morts, on s'est dit, ben, de la merde, nous, on va les scorer.
C'est tough love. C'est ce que les coachs, c'est ce que dans le monde sportif, on appelle ça le tough love. Puis j'ai ouais, l'impression qu'il n'y en a pas assez.
Ça. Il nous a donné une leçon. Il a dit, moi, je suis venu pour gagner. Puis visiblement, vous êtes une bande de perdantes aujourd'hui. Ben, moi, je ne suis pas avec vous aujourd'hui. Quand vous voulez gagner, faites-moi ça. Le lendemain, il dit, le lendemain, était à la pratique. Il dit, bon, ben, finalement, j'ai compris que. J'ai compris que ça valait la peine de vous avoir secoué, puis c'était une belle leçon.
Dernière petite question sur le basket, puis j'imagine que ben, c'est une situation qui s'est appliquée à la réalité la dernière saison. LeBron contre le Heat en finale, vous avez cheer pour LeBron?
LeBron.
Ah! Oh,
c'est oh, non, mais je l'aime d'amour, là.
Mais...
L'histoire de LeBron James est incroyable.
Vous trouvez pas,
j'ai
vous trouvez
que
pas...
les gens qui veulent ne pas l'aimer, mais moi je l'aime d'amour.
Mais vous trouvez pas qu'il s'aime un peu trop?
Ah oui, puis c'est correct.
Ah mon Dieu!
Alors, il s'aime. Ah oui, puis il s'assume qu'il s'aime. Moi j'aime bien mieux quelqu'un qui s'assume qu'il est bon. Puis, quand il y a eu New Orleans, il était présent. Oui. Quand il y a eu Black Lives Matter, il était présent. J'écoutais le documentaire de Michael Jordan, puis j'aime d'amour, Michael Jordan. Puis volontairement, il ne s'est jamais prononcé sur aucun débat le moindrement proche de la politique.
Mais c'est peut-être parce que...
Parce que c'était toxique.
Mais c'est peut-être parce lui... que dans ces années-là, justement, les athlètes, en général, le faisaient moins. OK, allez-y.
Non. Dans les années de Michael Jordan, les années de Michael Jordan, il y a quand même eu toute l'histoire de Los Angeles où est-ce que des jeunes noirs se faisaient tabasser devant les caméras, puis personne bougeait. Alors qu'on avait des gens, la personne la plus connue aux États-Unis, évidemment plus président, c'était Michael Jordan. Et je pense que c'est peut-être son plus grand regret de ne pas avoir mis tout son poids à lui pour dire « ça suffit ». Et quand je vois des gens comme aux États-Unis... qui ont mis un genou à terre puis qui ont perdu leur contrat.
Kaepernick.
Ouais, mais moi, sincèrement, là, eux autres, c'est eux là, qui méritent des médailles. Et c'est pas... C'est incroyable. Ça peut-être nous prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour réaliser ce geste courageux et combien ça lui a coûté à lui, personnellement. Que même Taylor Swift, là, elle raconte dans un documentaire que quand elle a décidé à titre de chanteuse, parce qu'une chanteuse, il ne faut pas qu'elle ait d'opinion politique, elle l'explique dans son documentaire, puis qu'elle décide, non, je vais m'impliquer, parce que oui, je viens de la Tennessee, puis non, Trump ne nous représente pas tous. Elle a perdu des fans, c'est pas grave, à s'impliquer. Moi, je trouve que quand on a un poids médiatique aussi important, quand on peut influencer, quand on est capable de faire participer la jeunesse, ça vient avec une responsabilité. Puis c'est pas tout le monde qui est capable peut-être de l'assumer, mais il ne faut pas qu'on oublie le pouvoir qu'on a de changer le cours d'histoire. Et LeBron James, il l'a compris.
Absolument. Écoutez, on va passer à autre chose parce qu'on a assez
parlé. Est-ce que je vous ai convaincu pour LeBron James, il fallait l'aimer?
Jamais! Jamais au grand jamais. Je ne mets pas en question son talent, je ne mets pas en question ses accomplissements sur le court. Il va... Et écoutez, je suis le plus gros fan de Kobe de tous les temps. Ce que je m'apprête à dire me fait mal. Mais si LeBron gagne un autre championnat ou deux... Son argument pour être le meilleur joueur de tous les temps est inatteignable. Parce qu'il va avoir tous les records, il va avoir les bagues, les rings, puis... Ah, bon, on va passer à autre chose. Vous... Non,
non, ça me fait... le record ne pourra jamais être, ne peut pas être changé. Le meilleur joueur, tout le monde sait que c'est Michael Jordan. Tout le monde. C'est impossible de répéter. Je pense que c'est vraiment impossible de faire back-to-back-to-back deux fois de suite.
Impossible. Exact.
Alors, ça, c'est... Et dans... Je vais pas donner trop... Je sais que j'en parle beaucoup. Moi, je suis une fan finie de basket. Mais il a même été empoisonné, là, pendant une finale.
Oui.
Michael Jordan.
Oui.
puis elle jouait pareil.
Absolument.
Puis c'est fou, là. Puis à l'époque, là, faut pas croire que c'était « Ah, il n'y a pas de compétition dans la ligue ». Il y en avait, là. Les joueurs se donnaient des vrais coups, là. Les refs, là, ils collaient pas grand-chose, là. Là, aujourd'hui, « Oh, mon Dieu, il a touché un peu
Je
la
sais,
main. »
Absolument. Non. Écoutez, LeBron Jordan, dans l'Est, juste dans l'Est, devait passer par les Knicks, les Bad Boy Pistons, les Pacers qui faisaient fort également. Non, c'était une ligue avec une physicalité différente d'aujourd'hui.
Ouais, puis le gars est parti, puis il est revenu.
Yes, écoutez, avant qu'on manque de temps, il faut que je le mentionne parce que vous l'avez mentionné. Vous avez parlé de Taylor Swift. Êtes-vous une fan de Taylor Swift?
Parce que... Oui, moi je l'aime.
Oh mon Dieu, vous comprenez pas. C'est mon artiste préféré. Taylor Swift, et puis je parle pas de ses classiques, je parle de ses hits obscurs comme Our Song, Enchanted. Moi, j'adore ça. Êtes-vous déjà allé la voir en concert?
Non, j'ai pas eu la chance de la voir en concert, mais moi, pourquoi que je l'aime? Un, elle prend le temps d'écrire, elle est proche de ses fans pour de vrai. Sa relation avec sa mère, qui l'accompagne, de débarquer dans un hôpital pour faire une surprise à une femme qui l'a écrit, qui est une jeune fille qui est malade, puis de prendre ce temps-là à travers un horaire hyper chargé, juste pour dire, ben j'ai pensé à toi, puis je veux te faire un petit peu de bonheur. Puis oui, c'est sûr, là, elle aurait pu tomber dans les clichés de la fille blonde, puis qu'au fond, elle n'a pas une super de belle voix. Non, elle a une super de belle voix, elle écrit ses textes, puis c'est aussi une femme d'affaires.
Oui. Puis il y a aussi le fait, pour moi, une des raisons également pour laquelle je l'aime le plus, c'est que ça a été une des artistes, une des premières artistes, et également une des plus vocales, justement, à, comme vous dites, prendre cette responsabilité sociale-là. Lors des élections, lors des dernières élections et lors des midterms, il y a 2 ans, elle était... c'est une fille de Tennessee. Elle était en Tennessee, puis elle était là, elle campagnait pour les démocrates, et elle savait que peut-être ça va me faire perdre des fans, des gens qui aiment pas que je me présente comme bleu. Mais elle le faisait quand même parce que c'est important pour elle, et elle réalisait que c'était important pour son pays, puis elle mettait de côté son gain financier pour ça, puis je trouvais ça extrêmement, extrêmement impressionnant de sa part.
Oui, vraiment, là, c'est tout à son honneur, puis c'est vraiment une jeune fille, hein?
Oui,
on oublie. Elle est encore très jeune, encore beaucoup de talent. Elle nous surprend à chaque fois, elle se renouvelle sans jamais se dénaturer.
Est-ce que c'est ce genre de musique-là que vous écoutiez avant vos matchs? Parce que ça, chaque athlète est différent. Chaque athlète a sa musique pré-match, puis vous, c'était pas Taylor Swift. Qu'est-ce que c'était?
Non, moi, de toute façon, c'était bien avant Taylor Swift, son arrivée. Moi, j'avais de tout, mais c'était... moi, je suis Lauryn Hill.
Nice, c'est bon ça.
Ouais, Nas.
Illmatic, excellent.
Moi, des mix, c'est tout, là. Non, moi, j'étais plus dans le rap, là. Vraiment.
Écoutez, moi, je vais vous faire une confession, puis on le dira à personne non plus. Là. Les fois où j'étais... Parce que j'ai fait de l'escrime pendant longtemps. Pendant très 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 longtemps, puis j'ose espérer, j'aime penser que j'étais bon à l'escrime. Et donc, les fois où j'ai le mieux performé, dites-le à personne, mais c'est quand j'écoutais les deux mêmes tunes. Avant les demi-finales, avant les finales, avant les quarts de finale. Circus de Britney Spears. All eyes on me in the center of the ring, just like us. Ou Big Girls Don't Cry de Fergie. Je sais pas c'est quoi, mais c'est le piano dans cette chanson qui vient me chercher, puis mettait un spring dans mon step additionnel.
Ouais, mais toi, mais je cours maintenant beaucoup plus qu'avant, parce qu'avec le basket, on court, mais on fait beaucoup de sprints. On fait pas des longues courses. Puis une de mes bonnes amies, Hélène, m'a mis on s'est dit, on va voyager pour faire les demi-marathons. Elle a fait des marathons, je suis dit, moi, je vais faire des demi, là, okay. Je suis pas folle. Puis là, je fais des longues playlists là, avec là-dedans, évidemment. Il y a de tout, incluant Taylor Swift. Et du reggaeton.
Yes, il faut.
Parce que dans les 5 km, là, t'en as vraiment besoin. Là, il faut qu'un Daddy Yankees, là, t'es de boule en barque.
Et vous vous êtes mise à la boxe. Est-ce que c'était juste pour 12 rondes d'espoir ou vous en faisiez avant?
Non, j'avais fait avant. Je voulais mourir. Non.
Puis, écoutez, j'ai fait du karaté pendant longtemps, puis j'essaie d'en faire tout récemment. Puis il y a très peu de choses aussi fatigantes physiquement qu'un sport de combat. C'est une intensité différente. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez eue avec la boxe également?
Oui, moi qui est capable de courir très longtemps, après le premier round, je perdais mon souffle. Oh. C'est pas la même respiration. Puis Ali Nestor, qui est incroyable, lui, là, c'est fou. Je sais pas comment il respire, là, mais une maîtrise complète. Et on dirait que c'est une vraie blague là, pour lui. Là, c'est facile. Puis j'ai vu d'autres boxeurs aussi. Une maîtrise des émotions, sont incroyablement calmes. Moi, en fait, je pense que la boxe m'a aidé à me calmer.
c'est surprenant, c'est contre-intuitif.
T'es sur le ring et il y a une discipline qui doit s'installer. Tu dois être aux aguets du coup qui s'en vient. Tu dois calculer tout ça dans ta tête en une fraction de seconde. Tu dois être hyper vigilant pendant cette période-là. Donc, t'es hyper focus. Puis quand tu termines tes rounds, ben, c'est sûr que là, t'es épuisé. Mais c'est la gestion de colère aussi. Là. Des fois, là, quand t'es là-dedans, là, ben franchement, dès que Ali Nestor me dit « Bon, n'en reviens-t'en, que tu dois juste faire des ça. » Moi, là, ça sort. Tout le temps que j'ai pas aimé, sort là.
Oui, le stress puis les mauvaises choses de la semaine ressortent toutes dans les poignets.
Exact. Exact. Là, puis des fois, tu penses à certaines personnes, là, on va se le dire très franchement. Fait que les autres aussi, ça passe dans le sac.
Écoutez, je vais... Ça fait déjà... Je pense 45 minutes qu'on parle. Je vais vous poser une dernière question puis je vais vous laisser aller par la suite. C'est pas une question sportive, mais c'est une question qui, pour moi et les journalistes puis les étudiants en journalisme, je pense, est importante. La confiance des Québécois et des Québécoises a grandement diminué dans les médias. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement triste et c'est un énorme détriment à la démocratie. Et si, regardez, si je mets mon chapeau de premier ministre, si je frotte une lampe, puis j'ai un génie, puis j'ai un choix à faire, je pense que je souhaiterais pour trouver une façon de donner des cours de journalisme au primaire et au secondaire. Peut-être pas un cours de journalisme, mais un cours de médias, ou un cours comme ça pour montrer à ces jeunes-là, puis pour les faire évoluer dans ce monde de faire confiance aux médias. Vous, en tant que porte-parole de l'opposition officielle en éducation, quelle serait peut-être votre solution pour intégrer ou trouver une façon d'intégrer à ce système éducatif-là une confiance additionnelle dans les médias?
Ah, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Première des choses, il y a déjà un outil merveilleux qui existe, puis c'est grâce aux journalistes, c'est 30 secondes avant d'y croire. Mais qu'on n'entend peut-être pas suffisamment parler. Il y a des professeurs qui sont déjà au courant, qui l'inculquent à leurs élèves. Moi, j'aimerais aller plus loin. L'Université de Washington, quand que Trump a été élu aux États-Unis, a lancé un nouveau programme qui s'appelle Calling Bullshit. C'est pour que les gens apprennent à distinguer le vrai du faux, la vraie nouvelle, la fausse nouvelle, le commentaire versus l'opinion, versus l'éditorialiste, versus le journaliste et le journaliste d'investigation. Calling Bullshit, j'aimerais voir des programmes comme ça s'installer au Québec dès le collégial. Un cours d'information, de vérifier l'information, de développer notre esprit critique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, lorsque nous sommes dans métro, boulot, dodo, et qu'on arrive à la maison pour faire le 5 à 7, là, c'est pas 5 à 7, là, sur la terrasse, là, c'est 5 à 7, faire les devoirs, préparer le souper, faire ça, faire le bain pour les enfants. L'être humain, là, à la fin de la journée, il reste peut-être 1h30 où est-ce qu'il va s'installer pour regarder la télévision. Ça se peut très bien qu'il y a besoin d'une pause mentale. Or, on n'a peut-être pas assez de temps, nous autres, là, j'aurais même pas mes clés, moi, là-dedans, parce que moi, je suis une élue, donc c'est, par définition, on n'a pas le temps. Fait que les travailleurs ont besoin de temps pour eux, puis on a de moins en moins de temps. Puis, peut-être que je vais aller plus loin dans ma réflexion, puis peut-être qu'une des raisons pourquoi on a de moins en moins de temps, c'est que la génération, la nôtre, moi, j'ai 35 ans, puis la génération de mes parents, il y a quelque chose qui est arrivé là-dedans. Ça s'appelle Generation Squeeze. C'est un rapport, c'est une étude en fait qui a été faite par des professeurs de l'Ouest qui démontre que la génération de mes parents avait besoin de travailler beaucoup moins longtemps pour cumuler le montant de paiement pour la mise de fonds pour une maison et devait voyager beaucoup moins longtemps que notre génération. Donc, nous, on travaille deux fois plus longtemps pour avoir la mise de fonds avant de s'acheter une première maison. Mm-hmm. Puis notre mise de fonds n'est pas suffisante pour s'acheter quelque chose proche de notre travail. Donc, les gens, évidemment, étalement urbain, mm-hmm. vont s'installer à 1h30. Dans le cas de Montréal, c'est à 1h30 du travail que la majorité vont devoir s'installer parce qu'ils ne sont pas capables d'acheter à Montréal. Dans le cas des gens qui habitent à Vancouver, c'est 2h30, 3h. Tous les jours. Toronto, même chose. Alors, ça fait en sorte que les gens, quand ils arrivent à la maison, ils ont moins en moins de temps dans leur journée. Est-ce que ces personnes-là vont prendre le temps de tout lire, analyser? Non. Alors, il faut qu'on réfléchisse aussi à une meilleure qualité de vie pour avoir justement cette capacité d'absorber d'autres informations supplémentaires. Mm-hmm. Ça, c'est ma affaire 2. Troisième affaire, la responsabilité des gouvernements. Honnêtement, là, ils ont regardé le train passer. Ils l'ont regardé passer 2-3 fois. Les GAFAM, là, surtout Google, Facebook, c'est ceux qui venaient vampiriser les revenus des journaux. Puis ils sont morts. Là. Ils en restent, mais ils sont tous en train de mourir, pas petit feu, mais à grand feu.
Oui.
Le devoir, c'est beau ce qu'ils ont été capables de réussir à faire, mais le devoir a survécu. Mais il y a plein de journaux de régions qui n'ont pas survécu. Là-dessus, le gouvernement doit bouger. Il faut qu'arrête de dire « oui, on réfléchit ». Ça fait depuis 2008 que vous réfléchissez. Ouais. Là. C'est simple, vous imposez les revenus publicitaires de Facebook puis de Google qui sont générés ici. Plus, on doit assujettir Facebook et Google à la vérification du contenu d'informations reliées sur leurs médias.
Oui.
S'ils veulent jouer comme des journalistes, ben les règles du jeu doivent s'appliquer à eux.
C'est quoi cette situation-là au Québec? Est-ce que c'est comme aux États-Unis où ces compagnies-là ne sont pas liable? Je pense que c'est section 2, c'est la même chose ici, c'est ça?
Oui, exact.
Problématique.
Mais il joue quand même comme un médium d'information. Imaginez que demain matin, la presse, ben, nous autres, on ne survit plus à notre compte Facebook. Vous pouvez mettre l'information que vous voulez, il n'y en a pas de problème. Mmh. Les gens vont penser que c'est vrai. Mmh. Alors ça, c'est une affaire que le gouvernement doit faire. L'autre chose qu'il devrait faire, toujours à mon humble avis, Radio-Canada, ça reste une société qui est subventionnée par nos impôts. Ils ont la capacité de générer plus de contenu d'information et de remplir leur vraie mission d'État, c'est comme de service public. Moi, j'aime les émissions comme Enquête. J'aime RDI Économie. Ça, je suis allée souvent, j'adore cette émission. C'est pour, c'est ma préférée. Mais Enquête, l'épicerie qu'on apprend plein d'affaires, notamment sur les insecticides là, qui sont dévoilés, la facture. Moi, je veux des émissions comme ça. Évidemment, j'adore District 31, mais j'aime pas voir des émissions trop de variété, si je peux me permettre, à Radio-Canada. Je préfère qu'il y ait davantage de journalisme d'investigation, d'information, parce qu'on a déjà Nouveau, TVA, qui peut faire le reste. Est-ce qu'on peut aussi aller plus loin avec Télé-Québec? C'est sûr que ça va nous prendre. Alors là-dessus, je peux pas tout faire, mais ce seront mes idées pour avoir un citoyen plus informé. Puis un citoyen plus informé, c'est souvent un citoyen plus engagé.
Absolument.
Mon humble opinion là-dessus.
Ben c'est une opinion extrêmement valable, puis c'est une opinion que je pense que tout le monde devrait partager. Vous avez absolument raison là-dessus. Écoutez, Madame Risky, j'ai bien prononcé Risky ou Risky?
Risky. Risky.
Je vous remercie.
Super bien prononcé.
Je vous remercie énormément. On a discuté pendant 55 minutes. C'est tellement gentil de votre part de m'avoir accordé ce temps-là. Puis si jamais vous voulez parler de basketball, je suis votre homme. On s'en parle quand vous voulez. Je serai au poste pour en discuter avec vous.
Ben, dans ce cas, je prends tout de suite moi la balle au bon. Hein.
Allons-y.
L'an passé, on devait avoir un tournoi de basket politique stand de Toronto. Puis une de mes amies de Toronto me dit ben, hey, Marois, ça serait le fun que tu joues. Mm-hmm. Je dis ben non, moi je ne vais pas à Toronto jouer au basket pour vous autres, puis que vous ramassez d'hôpital pour c'est une super de belle cause, vous allez ramasser des sous pour votre hôpital, mais ce serait intéressant de faire un tournoi, oui, à Toronto, mais la réplique à Montréal pour ramasser des sous pour notamment l'hôpital. On pensait que ce soit pour l'hôpital pour enfants. Mais finalement, à cause de la COVID, c'est tombé à l'eau. Alors, dès que ça va revenir, ça devait être dans le Vieux-Montréal, probablement au Quai de l'Horloge, un gros tournoi de basketball avec déjà, Montréal versus Toronto, les politiciens de Toronto, attachez votre truc.
Écoutez, je vais, lorsqu'on aura accroché, je vais écrire un email à tous les politiciens de Toronto pour leur dire « Don't mess avec Marois dans le poste. Elle va sortir les coudes, faites attention. »
Ah, ben moi, j'ai tellement un sentiment de fierté, là. C'est sûr qu'on va les battre, là, vous comprenez.
Yes! Parlez-moi de ça. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Puis regardez, je vais mentionner cette ce tournoi-là qu'on espère pouvoir organiser le plus tôt possible. Puis encore une fois, je vous remercie pour votre temps, puis je vous laisse aller. Passez une extrêmement belle journée.
Ça me fait super plaisir.
Au
À
revoir.
bientôt, j'espère.
À
Bye bye.
bientôt, au revoir.